Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Pascal Massiri Kabissimoa.
Les titres de l'actualité, affrontement ce dimanche au Nord Kivu entre le FRDC et les rebelles du M23-RDF dans la région de la Ruindi, territoire de Rutshuru. Pas encore de bilan à cause de l'enclavement de la zone dans le massif voisin. La situation est imprévisible à Sake et ses environs. Le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo tire la sonnette d'alarme sur la montée actuellement de l'insécurité à Kisangani et la vétusté du bâtiment qui abrite l'organe délibérant dépourvu de véhicules officiels. Mateus Kanga l'a dit ce samedi à l'ouverture de la session ordinaire. Notre invitée, c'est la coordinatrice du projet sur la santé sexuelle et de reproduction au sein de SOS Sida. Dr Ghislaine Boudema revient sur la campagne de sensibilisation et sur le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus au sud Kivu. Madame, messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, des violents affrontements à l'arme lourde opposent depuis ce samedi matin les FRDC aux rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise dans la région de la Ruindi, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Sans évoquer un quelconque bilan, des sources concordantes affirment que ces combats sont également signalés vers la cité de Kiwanja. Le récit de Gabriel Ouamenia.
Jusqu'en fin d'après-midi ce samedi, les détonations d'armes lourdes étaient toujours entendues dans la région de Ruindi, secteur passé sous occupation des rebelles il y a quelques jours. Quelques sources locales dans la région affirment que c'est l'armée congolaise qui aurait lancé l'assaut sur les positions rebelles tôt le matin dans l'objectif de déloger ces rebelles du poste de la Ruindi en plein parc national de Virunga. Les mêmes sources précisent que les habitants des villages Kibirizi et Vichumbi sous occupation rebelle restent toujours terrés dans leurs habitations depuis le début des affrontements sur ordre de l'administration rebelle locale. Nos sources précisent que les habitants les plus courageux qui se sont rendus dans la matinée à Vichumbi pour s'approvisionner en nourriture y seraient bloqués car il n'y a ni entrée ni sortie, précise une source contactée cet après-midi à Vichumbi. Il est difficile pour l'instant de donner un bilan de ces affrontements à cause de l'enclavement de la zone. Sur les fronts sud-ouest, dans les territoire de Massissi, la situation reste toujours imprévisible à Sake et ses environs, selon nos sources. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Kapi.
Nord Kivu encore, 7 déplacés sont décédés en moins d'un mois dans la commune rurale de Kiwanja, de Kaina plutôt au sud du territoire de Lubero. La société civile locale attribue ces drames à la famine et au manque de soins de santé primaire. Explication de Sadiki Aboubakar.
Parmi ces victimes, on trouve 2 enfants. Le dernier cas de décès remonte à mercredi. La société civile de Kaina rapporte que ces personnes sont décédées à cause de la sous-alimentation et du manque des prises en charge médicales. Ces déplacés, estimés à environ 15 000 ménages, sont éparpillés entre Kaina, Kirumba, Miriki, Miobwe, Luofu, Kasehe, Kamandi Lac et Kamandi Jit. Amani Kinda, président de la société civile, affirme que moins de la moitié de ces personnes ont bénéficié de l'assistance du gouvernement, une assistance jugée par ailleurs insignifiante, ajoute-t-il. Ces déplacés, venus majoritairement de Kibirizi dans le territoire de Rutshuru, sont hébergés dans des familles d'accueil et d'autres occupent des églises. Les familles d'accueil sont également confrontées au problème d'accès à leurs champs. Ceux-ci se trouvent en effet dans une zone occupée par des groupes armés, ajoute la même source. Ils exigent de l'argent aux propriétaires des champs avant d'y accéder, déplore la société civile. Nous n'avons pas réussi à avoir l'administrateur du territoire de Lubero pour sa réaction. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Et puis, plus de 200 000 déplacés de Massissi au Nord Kivu sont arrivés à Minova, dans le territoire de Kalehe, au sud Kivu voisin. Ils ont fui les affrontements entre les FRDC et les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise. Leur présence perturbe actuellement le déroulement des enseignements dans les écoles, dans les salles de classe qui les hébergent dans des conditions extrêmement difficiles. La société civile locale plaide pour leur assistance. À Bukavu, la correspondance d'Emmanuel Elmejo Kabedi.
C'est depuis le mois de février dernier que les déplacés de Massissi au Nord Kivu affluent dans la cité de Minova et dans d'autres localités environnantes du territoire de Kalehe. Ils sont logés dans des familles d'accueil, d'autres occupent les salles de classe, les églises et les structures de santé ou encore certains immeubles en chantier. Avec cette situation, les établissements scolaires de Minova fonctionnent difficilement. Les déplacés sont obligés de libérer provisoirement les salles de classe et permettre le déroulement des cours pendant quelques heures de la journée. Pour survivre, certains travaillent pour les comptes de ménage de Minova afin de recevoir un revenu d'environ 2000 francs congolais par jour. L'accès à l'eau potable est même difficile. La Croix-Rouge du Nord-Kivu a tout de même réussi à distribuer des couvertures et autres ustensiles de cuisine. Certains humanitaires présents dans la zone offrent des soins médicaux gratuitement aux déplacés malades. La société civile de Minova plaide pour une réponse urgente en faveur de ces personnes, mais surtout favoriser les conditions sécuritaires pour leur retour dans leur milieu respectif. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, le centre de santé de Bingi dans le territoire de Lubero au Nord Kivu n'a plus de médicaments essentiels. C'est après la prise en charge d'une cinquantaine de blessés dont 6 sont décédés après un accident de circulation survenu cette semaine au retour d'un enterrement. L'administrateur gestionnaire de ce centre de santé tire la sonnette d'alarme. Augustin Barouti a été joint par Sadiq Aboubakar.
Pour le moment, nous n'avons plus notre stock de médicaments, car tout a été consommé vraiment par ce drame pour essayer de faire tout ce qu'on pouvait faire. C'est pourquoi nous appelons les gouvernements provincial et national de nous venir en aide pour essayer de reconstituer notre capital de pharmacie. Vous savez qu'il y a aussi un afflux de déplacés qui nous viennent de Rutshuru, de Beni. Nous trouvons que ça ne sera pas du tout bon, que cette structure de référence de prendre tout ce monde à charge sa stock suffisant à produits pharmaceutiques. C'est pourquoi, chers journalistes, nous lançons ce cri d'alarme pour essayer de faire comprendre à tous ces partenaires-là, personnels de bonne volonté qui nous suivent maintenant, de nous venir en aide pour que aussi nous puissions reconstituer notre stock de médicaments.
On en vient maintenant à l'actualité politique. Dans la Tchopo, le nouveau président de l'Assemblée provinciale dévoile sa vision basée sur la stabilité des institutions provinciales. Matheus Kanga Londimo l'a dit ce samedi lors de l'ouverture de la session de mars. C'était en présence de la gouverneure Madeleine Nikomba. Reportage à Kisangani de Jacques Mokongole.
La stabilité des institutions provinciales est gage de développement de la province de la Tchopo, a dit Mathieu Kanga Londimo. Selon lui, cette stabilité est axée sur la responsabilité collective. Celle-ci n'exclut pas le contrôle et implique un travail bien fait de tout un chacun pour la construction d'un bel avenir, a-t-il souligné. Cette session étant essentiellement législative et des contrôles parlementaires, le président de l'Assemblée provinciale interpelle la conscience de ses collègues afin de ne pas décevoir les attentes des population.
Notre population attend du contrôle parlementaire des réponses correctives et concrètes à leur propre quotidien. Nous devons miser sur un contrôle parlementaire axé sur les résultats, avec un accent particulier sur le secteur des finances, où nous veillerons à ce que l'article 203 de notre règlement intérieur soit réellement d'application au travers d'un contrôle trimestriel de l'exécution du budget de la province.
Bien avant, Matheus Kanga a décrié la résurgence de l'insécurité dans la ville de Kisangani, enjoignant ainsi l'autorité provinciale à pouvoir l'endiguer. Il a aussi déploré la vétusté du bâtiment de l'Assemblée provinciale ainsi que la détérioration des routes qui mènent vers cette institution, laquelle ne dispose à ce jour d'aucun véhicule officiel. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Aucune femme n'a été élue récemment membre du bureau de l'organe délibérant du Tanganyika. Dans une déclaration faite hier après-midi à Kalemie, la députée provinciale Christine Mwando dénonce ce qu'elle qualifie d'égoïsme des hommes politiques. Elle pense que la candidature de l'unique femme au poste de questeur à l'Assemblée provinciale du Tanganyika devrait être prise en compte. Elle est au micro de Paul Emunanga.
Je suis un peu satisfaite parce que nous n'avons pas pu avoir une représentativité de femmes. La femme n'a pas pu être élue, ce qui est vraiment dommage. Parce que normalement, on a déjà parlé de la parité et puis c'est dans la loi. On doit respecter la représentativité de la femme à tous les niveaux. Vous avez remarqué que les femmes aussi sont en train d'émerger et c'est vraiment dommage. Ce qu'on aurait pu faire, si les hommes n'avaient pas été égoïstes, on aurait pu demander à ce que le ticket de la femme soit respecté. Parce qu'on a eu une seule femme comme candidate. Elle a été la seule femme. Mais malheureusement, vous avez vu vous-même ce qui s'est passé. Il y a eu 2 candidats. Nous acceptons ce qui est arrivé, malgré nous. Je dis à la population de nous accompagner, parce que nous venons de commencer un travail et que la population ne se dise pas que nous sommes aussi les seuls responsables. Nous sommes une équipe. Les élus et la population, nous formons une équipe. La population doit nous orienter, la population doit nous accompagner, parce que la province n'appartient pas seulement aux élus, mais elle appartient à tout le monde.
Dans un autre chapitre, partons maintenant pour le Maniema où le gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala vient de doter 3 communautés de la chefferie de Bangengele des arrêtés portant sécurisation des sites traditionnels. L'Alliance pour la promotion du patrimoine autonome et communautaire avec l'appui financier du programme PIRED a accompagné cette identification. Une première en RDC, n'est-ce pas, Florence Kizalunga?
Il s'agit là des heures du patrimoine autochtone et communautaire situé dans les localités de Kebenja, Uka Ibwe et Liwama. Les gardiens des coutumes, au nom de tous, saluent cet accompagnement. Loma Minzambe.
C'est une partie vraiment qu'on avait ignorée, mais avec nos amis d'Anapac, accompagnés de Pirede, vraiment, ils nous ont accompagnés jusqu'à arriver aujourd'hui à voir notre arrêté. Je vois que ça sera un peu bien comme c'était dans l'état des Aïles.
Les chefs d'antenne d'Anapac appellent le bénéficiaire en un bon usage de ses aires. Darius Omari.
Dorénavant, ils n'avaient pas de titre de sécurisation. Maintenant qu'il y a un titre de sécurisation, je ne peux que leur demander de gérer de façon traditionnelle et en bon père de famille leur entité. S'il y a des activités post-sécurisation, cela pourra venir et trouver les sites dans son état initial.
Le représentant du gouverneur en matière d'environnement explique l'essence de ces documents. Maître Saleh Abassi.
Selon le code forestier et la loi 015 portant statut de chef coutumier, veut que les chefs coutumiers soient les vrais défenseurs de rites traditionnels de notre culture, nos us et coutumes.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis au Sud Kivu, la société minière Primera Gold a réussi à tracer et exporter plus de 5 tonnes d'or en 2023. Un record qui a produit plus de 300 millions de dollars américains au trésor public. Révélation faite à Bukavu ce vendredi par le directeur général de cette entreprise. Joseph Kazibaziba recevait donc hier les négociants d'or en vue de leur implication dans la lutte contre la fraude minière et la contrebande. Il s'est confié à Emmanuel Elamejo Kabedi.
Je parle de toute la chaîne d'approvisionnement qui nous a permis l'année passée de faire 5 tonnes d'or que nous avons tracées et exportées dans les circuits officiels. Quand on fait 5 tonnes, cela veut dire que nous avons pu avancer la République de plus de 100 ans. On aimerait faire mieux que ça parce que la réalité elle-même prouve que la côte est de la RDC fait passer plus de 36 tonnes d'or, l'équivalent de plus de 2 milliards de dollars. Quand on fait 5 tonnes, ça ne fait qu'à peu près 300 millions de dollars. Et je crois que l'objectif est que nous puissions arriver à capter les plus de 20 tonnes au niveau de la province. On a réussi à mettre en place une chaîne de traçabilité qui nous a permis d'avoir de l'or sans conflit. On a réussi à avoir de la traçabilité des flux financiers, ce qui est aussi bon. Si déjà nous parlons de 5 tonnes dans une année, dans un pays où on exportait 25 kilos, nous avons pu ramener 300 millions de dollars dans le circuit bancaire congolais. Si vous comparez avec l'année 2022, vous allez constater que cette année, il y avait eu 1 800 000 pour toute une année avec 25 kilos.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, plusieurs organisations de la société civile interpellent le pouvoir de transition. Dans une déclaration faite ce samedi matin, ces organisations de la société civile appellent le régime du président Traoré à respecter scrupuleusement l'ensemble des dispositions de la Constitution et à procéder à la libération sans condition des personnes illégalement arrêtées ou arbitrairement réquisitionnées. Au Gabon, 10 ans après, les cartes d'identité seront renouvelées. Elles ne l'étaient pas depuis la rupture de contrat avec un prestataire belge chargé de la fabriquer. Le gouvernement promet de délivrer le 3 avril prochain une carte nationale électronique plus sécurisée. Et puis au Niger, il y a moins d'une semaine, plus de 1400 personnes fuyant les violences des bandes armées sont arrivées dans plusieurs villages de la région de Maradi à la frontière avec le Nigeria, selon les chiffres qui ont été communiqués aujourd'hui par les Nations Unies.
L'invité.
Notre invité, c'est la coordinatrice
directrice du projet sur la santé sexuelle et reproduction au sein de SOS Sida. Docteur Ghislaine Boudema revient sur la deuxième campagne de sensibilisation sur les dépistages et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus au sud Kivu. Elle s'entretient à Bukavu avec Rachel Kessembangou.
Docteur Ghislaine Boudema, bonjour.
Bonjour.
Vous lancez la deuxième phase de la campagne de sensibilisation sur le HPV, dépistage et traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus au sud Kivu. Pourquoi cette campagne et c'est quoi le HPV?
Le HPV, c'est le Human Papilloma Virus. En français, c'est le papillomavirus humain. C'est un virus qui est le plus incriminé dans la survenue du cancer du col de l'utérus. Et aujourd'hui, nous allons lancer la deuxième campagne de sensibilisation sur les HPV qu'on vient d'expliquer et le dépistage et traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Ceci parce que le cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde et le deuxième cancer qui est responsable des décès chez la femme. Et pour cette raison, nous avons trouvé que parce qu'aussi c'est un cancer qui est curable s'il est dépisté et traité à temps. Raison pour laquelle nous avons trouvé que c'est très important d'agir, de faire des sensibilisations chez les femmes sur la prévention de ce cancer et aussi de faire le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus pour éviter aux femmes de développer par la suite le cancer du col de l'utérus.
Vous dites que le HPV, Human Papillomavirus, c'est l'infection, c'est l'IST la plus fréquente, mais dites-nous comment est-ce que ça se transmet ces virus?
Le Human Papillomavirus, c'est une infection sexuellement transmissible, donc, et se transmet principalement par la voie des rapports sexuels non protégés. Et donc, même lors du premier rapport sexuel, on peut attraper le Human Papillomavirus. Et donc, on peut dire que toute femme qui a déjà eu le rapport sexuel est à risque de développer l'infection à Human Papillomavirus et par conséquent à risque de développer le cancer du col de l'utérus dans les années à venir si elle ne se fait pas régulièrement dépister.
Pouvez-vous nous faire un petit rappel sur ce qu'est le cancer du col de l'utérus?
Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui concerne une partie de l'utérus de la femme. Et le cancer qui se développe sur cette partie, c'est ce qu'on appelle cancer du col de l'utérus.
Quels sont les risques pour une personne porteuse de ce virus?
Ce n'est pas toute personne qui est infectée par le Human Papillomavirus qui développe le cancer de l'utérus. 90% des personnes qui ont été en contact avec le Human Papillomavirus éliminent le virus par le mécanisme immunitaire du corps humain. Et c'est seulement 10% des personnes qui ont été en contact avec le Human Papillomavirus qui vont développer l'infection à Human Papillomavirus qui peut évoluer vers le cancer du col de l'utérus dans les années à venir.
On peut attraper ce virus même si on a utilisé le condom?
Oui, on peut développer l'infection Human Papillomavirus même si on a utilisé le condom. Parce que c'est un virus qui se transmet même par contact peau à peau ou contact avec les muqueuses d'une personne infectée par l'infection Human Papillomavirus vers une personne non infectée.
Comment savoir si une femme a le cancer du col de l'utérus? Est-ce qu'il y a des signes, des symptômes qui peuvent alerter?
Pour savoir si une femme a le cancer du col de l'utérus, je dirais qu'il faut se faire dépister. Parce que la plupart des signes apparaissent au stade avancé de la maladie. Mais au début de la maladie, c'est souvent asymptomatique. Et donc, la meilleure façon de savoir, c'est de se faire dépister régulièrement afin que si on aurait eu un cancer du col de l'utérus, que ça soit dépisté à temps et que ça soit traité à temps.
Pour finir, que faire pour prévenir cette infection et par conséquent le cancer du col de l'utérus?
Je dirais que la prévention du cancer de l'utérus a trois stades. Au stade primaire, il s'agit de la sensibilisation et la vaccination contre le HPV. Au deuxième stade, c'est le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Et le troisième stade de la prévention, c'est ça, le traitement des cancers. Et il y a aussi les soins palliatifs. Et donc, pour chaque femme en activité sexuelle, il est important de se faire dépister régulièrement et puis de se faire traiter au cas où il y aurait les lésions précancéreuses du col de l'utérus.
Je vous remercie.
C'était l'invité de Radio Capi, la coordinatrice du projet sur la santé sexuelle et reproduction au sein de l'ONG SOS Sida, Dr Ghislaine Boudema, interrogée à Bukavu par Rachel Kessembangou. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20. Infiniment merci à Jacques-Yves Moulima qui a supervisé ce journal.